carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκή σκληροβάνια.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Daniel Cohn-Bendit et Alain Krivine ne sont pas les seuls noms que l'année 1968 a retenu. Car en cette année, la révolte est mondiale et en tout cas très européenne, à l'ouest comme à l'est. Madrid, Rome, Berlin, Paris bien sûr, mais aussi Varsovie et surtout Prague se sont enflammés. Rudi Dutschke, Alexandre Loutchek ou encore Adam Michnik ont marqué eux aussi cette année, souvent de manière dramatique. Avec nos invités, nous allons faire le tour d'Europe des révoltes de 68. Bonjour Henri Rey.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CEVIPOF, et le CEVIPOF c'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous avez co-dirigé le dictionnaire de mai 68 aux éditions Larousse, de A comme action, ça c'est un mot très 68A, à Z comme Zengakuren. Action on comprend très bien, mais Zengakuren en deux mots.
Bien, c'est l'organisation des étudiants de gauche japonais qui ont mené des manifestations très violentes dans plusieurs villes du Japon et au-delà même de 68.
C'est dire si l'année était mondiale. Jacques Lepnik, bonjour.
Bonjour.
Les habitués de l'émission vous connaissent bien, vous êtes directeur de recherche au CERI. Le CERI, c'est le Centre d'études et de relations internationales, qui dépend lui aussi de sciences politiques, une grande maison donc. Et vous êtes le co-auteur de 1968, le printemps tchécoslovaque aux éditions Complexe. C'est une réédition, il y a des nouveautés ?
Il n'y a pas vraiment de raison d'ajouter quoi que ce soit au travail des historiens, mais il y a des nouveautés pour ce qui est de l'interprétation. Nous posons des questions peut-être différemment qu'il y a 10 ou 20 ans.
Isabelle Sommier, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Centre de recherche politique de la Sorbonne. Votre dernier ouvrage, La violence révolutionnaire aux éditions Presse de Sciences Po. Là encore, Henri Rey, s'il y a un point commun entre toutes ces révoltes, en tout cas à l'Ouest, c'est celui d'une jeunesse qui exprime son ras-le-bol par rapport au conformisme de la société ambiante. En ce sens, Paris, Rome, Madrid se ressemblent.
Alors bien sûr, il y a, au-delà des différences nationales qui sont très importantes, il y a un certain nombre de points communs. Il y a une toile de fond qui est commune, hein, c'est la guerre du Vietnam. Hein, et partout, ces grandes manifestations, que ce soit à Londres, que ce soit à Berlin, que ce soit à Paris, et même en Espagne, sous le joug du régime franquiste, il y a des mobilisations contre la guerre du Vietnam, pour le soutien au peuple vietnamien, contre la présence des bases d'un certain nombre de pays, etc. Donc de ce point de vue, il y a ce point commun, ça c'est incontournable. Et puis il y a aussi, évidemment, cette réalité de la crise, en quelque sorte, qui s'esquisse de l'université, d'une université qui est trop étroite dans ses structures, dans ses traditions, dans ses programmes. Et un peu partout naissent des mouvements de contestation qui débouchent sur des propositions d'universités critiques, un peu à l'image en Angleterre de ce qui s'était fait à New York, mais aussi en Allemagne, on installe cette université critique. Il y a toutes ces tentatives de remettre en question l'institution universitaire, une institution dans laquelle, évidemment, il y a une croissance démographique très importante, même si les enfants des milieux modestes sont encore peu représentés. Il y a un accès assez massif des enfants des classes moyennes. Et évidemment, cette institution est en grande crise un peu partout en Europe.
Isabelle Sommier, vous connaissez particulièrement bien la situation en Italie. Il y a, je crois, une chanson d'un groupe célèbre à l'époque qui résume l'ambiance à Rome et partout en Italie et qui dit quelque chose comme ça. Dieu est mort et la société est fatiguée.
Oui, il se passe en Italie ce qui se passe ailleurs. Il y a d'abord ce contexte international qui pèse, hein, la lutte contre la guerre du Vietnam, et puis il y a une jeunesse qui étouffe à la fois dans l'enceinte universitaire, mais également au niveau familial. Hein. Je pense que l'anti-autoritarisme est quand même le substrat commun de tous ces jeunes. Hein. En France comme en Italie, hein, le mouvement commence dans une faculté un peu éloignée de sociologie, et à avoir à la fois avec un ras-le-bol contre les règlements universitaires, mais également une soif de libération des mœurs, hein, puisque en Italie, des lycéens vont être renvoyés pour avoir fait un journal parlant de sexualité. Eh bien, on retrouve finalement cette même aspiration à une respiration, en quelque sorte.
Jacques Lepnik, à l'Est, la situation est bien différente, que ce soit à Prague comme à Varsovie. C'est pas la révolte dans les universités, c'est plutôt les intellectuels qui sont à l'origine de l'étincelle de l'année 68. Alors, par exemple, j'aimerais que vous racontiez l'interdiction de la pièce Les Aïeux à Varsovie.
Oui, ça, c'est un classique de la littérature polonaise du 19e siècle qui a été interdit par le régime, qui soudain découvrait qu'on pouvait lire la pièce au deuxième degré, comme évidemment dans tout système où il y a censure, on peut lire les choses même qui n'ont pas de rapport direct avec la situation du moment. On peut lire ça comme une protestation contre la mainmise russe, puisque la Pologne était partagée au XIXe siècle et qu'une grande partie de la Pologne était sous la domination russe, comme elle l'était d'ailleurs de nouveau en 68. Donc la protestation des étudiants, c'était une protestation pour la liberté d'expression. Donc c'était pas on veut plus de postes de prof ou on veut plus de ceci ou de cela. Non, c'est une protestation pour la liberté d'expression. Et les étudiants tchèques, en fait, aussi étaient, disons, l'aile radicale, mais d'un mouvement pour la liberté. Ce qui était au cœur des mouvements en Italie, en France, etc., c'était l'élan révolutionnaire, le culte de la révolution, parfois même le culte de la violence ensuite. Là, c'était le culte de la liberté. Pour des gens qui en ont été privés pendant 20 ans par le régime communiste.
En Tchécoslovaquie, le phénomène déclenchant, ça a été quelques mois auparavant, le congrès des écrivains, je crois que c'était en juin 1967.
Absolument, oui, c'est un grand moment où les écrivains tchèques, il faut dire que les années 60, c'est une sorte d'âge d'or de la culture et de la littérature tchèque en particulier. Vous avez les grands écrivains, Kundera, Havel, Vatsulik, Škvoretsky. Vous avez au moins une douzaine de grands écrivains qui apparaissent à ce moment-là, et ces gens-là s'expriment à la tribune du congrès des écrivains, ils font des discours qui ne sont pas que littéraires, qui mettent en cause le système. Et Vatsulik a cette formule assassine, il dit « En 20 ans, ce régime socialiste n'a résolu aucun problème humain ». Et ça,
en pour le coup, c'est révolutionnaire.
C'était révolutionnaire. Le responsable de la direction du parti a quitté la salle en claquant la porte. Et à ce moment-là, la crise politique était en quelque sorte annoncée. Elle allait déboucher au mois de janvier par l'élection d'Alexandre Dubček à la tête du parti. Et ce dernier, qui était un apparatchik peu connu, a eu l'étrange idée, évidemment, il n'était pas le seul et c'était sous pression, d'abolir la censure. Et à partir du moment où vous avez, dans un système totalitaire, aboli la censure, c'est la fin, c'est la décomposition du système et c'est le réveil de la société civile.
Des révoltes à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. J'ai demandé à Daniel Cohn-Bendit, qui personnifie mai 68 en France, quel était pour lui le ferment de ces révoltes et s'il était conscient de ce mouvement qui a traversé notre continent et même le monde. Daniel Cohn-Bendit.
Le ferment unificateur, c'était une révolte anti-autoritaire de la génération de la précaire contre les sociétés installé par la génération de la guerre. Donc, avec ses différences, que ce soit l'Allemagne ou la Pologne, ça. Mais c'est ça, le ferment commun, c'est cette révolte anti-autoritaire. La protestation contre la guerre de Vietnam est une expression politique que l'on retrouve un peu partout dans le monde occidental surtout. Et qu'on retrouve pas, par exemple, à Varsovie. Donc, ce qui est en commun, c'est ce sentiment anti-autoritaire. Mais nous étions conscients d'être ancrés dans quelque chose qui n'était pas non seulement européen, mais qui était presque planétaire.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Alors Réré, j'aimerais que l'on s'attarde quelques instants sur l'année 68 en Allemagne et sur son animateur emblématique, Rudi Dutschke.
Alors l'année 68 a commencé avant 68, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens, en Allemagne, dans la mesure où, si vous voulez, existait depuis assez longtemps une organisation relativement radicale qui était la SDS, c'est-à-dire les étudiants socialistes allemands, qui avait, à l'égard du Parti social-démocrate, qui avait fait son congrès de Bad Godesberg et qui avait répudié à ce moment-là un certain nombre de ses engagements antérieurs, le marxisme, la neutralité, etc. Donc de ce point de vue-là, l'organisation des étudiants était restée à l'écart de ce mouvement d'aggiornamento du socialisme allemand, de la social-démocratie allemande, et petit à petit, cette organisation, bon, tout en organisant une mobilisation proprement universitaire contre les modalités de fonctionnement à l'intérieur de l'université, contre l'autorité aussi mandarinale, ça c'est un thème transversal que l'on trouvera, cette organisation SDS va être en quelque sorte le creuset d'une révolte importante qui va avoir des échos, y compris une influence sur d'autres mouvements, et je pense par exemple au mouvement français. Donc le SDS organise en quelque sorte cette contestation de l'université et en même temps les grandes manifestations sur le Vietnam. Et là il va y avoir un congrès Vietnam qui va se tenir à Berlin, auquel participeront des manifestants venus de toute l'Europe. Évidemment, les JCR d'Alain Krivine y seront présents, d'autres manifestants français seront présents. Et là, il y a quelque chose qui va un peu démarrer au cours déjà de cette manifestation aussi de Berlin. Et puis, il va y avoir cette espèce d'affrontement extrêmement important avec le groupe de presse Springer qui va trouver sa naissance lorsque un étudiant allemand manifestant contre la présence du Shah d'Iran en Allemagne va être tué par des gardes du corps donc du Shah d'Iran.
Particularité tout de même en Allemagne, c'est que c'était aussi une révolte contre les parents soupçonnés de collaboration avec le régime nazi. Il y avait cette formule très choc, ne fais jamais confiance à quelqu'un qui a plus de 30 ans.
Oui, il y a bien sûr le poids extrêmement lourd de l'engagement de la génération précédente et surtout du silence de la génération précédente sur ses engagements et de l'intérieur du SDS et plus largement de la jeunesse allemande, on va essayer de demander des comptes à l'ensemble de cette société. Mais il va y avoir, bien sûr, une forte animosité contre ce qui va représenter en quelque sorte le substrat de cet autoritarisme et de ce passé trouble autour du groupe de presse d'Axel Springer. Il va y avoir des manifestations dans toute l'Allemagne à partir du moment où celui-ci portera des accusations, des critiques assez véhémentes à l'égard du mouvement des étudiants allemands.
Alors en Tchécoslovaquie, vous l'avez dit, Jacques Rupnik, qu'on ne s'insurge pas contre le système capitaliste, on réclame la liberté. Et petit à petit, Alexandre Doucet tente de mettre en place le socialisme à visage humain. C'est une formule très belle.
C'est une belle formule qui a le mérite d'être vague, parce que chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et c'est effectivement ce qui a fait la richesse du printemps de Prague, parce que tout le monde voulait sortir du système stalinien, ne cherchait pas forcément, et ne pouvait pas, puisqu'il avait la contrainte quand même d'une Europe divisée, sortir complètement du système socialiste, et on recherchait une troisième voie. Et puisque vous évoquiez Rudi Dutschke, il est venu à Prague et il a eu un débat mémorable avec les étudiants tchèques qui était le résumé parfait du malentendu. Il sortait avec une grande virulence, un discours parfaitement élaboré, c'est un grand orateur, mais qui est un discours marxiste-léniniste pour des gens qui sont dans un système communiste dont c'est l'idéologie officielle. Donc c'était quelque chose de totalement irrecevable, vous voyez, il y avait une grande difficulté à communiquer parce que le vocabulaire, les termes même dans lesquels s'est pensée la révolte de 68 en Occident étaient en gros les termes de la révolution bolchevique de 1917. Or pour des gens qui sortaient du communisme, c'était évidemment peu recevable, même si derrière le vocabulaire, on pouvait déceler des choses qui étaient des aspirations communes. Et puis il y avait surtout cette volonté de sortir du carcan de la guerre froide, de l'Europe divisée. On contestait chacun dans sa partie de l'Europe l'ordre établi. Et donc là, il y a un parallèle plus profond qui dépasse le grand malentendu de 68.
Alors 68, ça durait une année, un été, et ça s'est pas toujours très très bien terminé. Plutôt assez bien à l'ouest, quoique, et plutôt très mal à l'est, notamment en Italie, où on est passé assez facilement, Isabelle Semier, du rêve au cauchemar, à partir du moment où Aldo Moro, donc le leader de la démocratie chrétienne, a été enlevé par les brigades rouges, c'est-à-dire l'expression armée de 68.
Oui, c'était en 78, et d'ailleurs plusieurs chercheurs considèrent que d'une certaine manière, la révolte de 68 a duré presque 10 ans en Italie, et les années 70 sont une montée dans la radicalisation et qui aboutit effectivement à l'assassinat d'Aldo Moro. Mais on retrouve cette évolution dans d'autres pays, et c'est vrai qu'il est assez remarquable de noter que les trois pays qui ont été les plus touchés par les années de plomb consécutives à 68, l'Allemagne, l'Italie et le Japon sont trois pays qui ont connu le fascisme. Donc là, il a certainement quelque chose à interroger. Bon, on retient maintenant les Brigades Rouges ou la Fraction Armée Rouge, mais c'est une période où il y a une prolifération de ces groupes, car il y a une réactivation du mythe révolutionnaire et dans cette ambiance qui est une ambiance quand même assez guerrière, avec les luttes de libération du tiers-monde, etc., les groupes d'extrême-gauche considèrent en quelque sorte que le rapport à la violence, c'est l'étalon de leur fidélité et de leur foi révolutionnaire. Donc il y a une compétition, une concurrence entre les groupes sur le terrain physique qui va favoriser donc la montée et la radicalisation de certains.
Henri, une petite parenthèse, un pays totalement absent dans les révoltes de 68, c'est la Grande-Bretagne où la révolte prend, disons, des allures musicales.
Pas seulement musical, bien sûr, on retiendra un certain nombre de chansons fétiches, Revolution des Beatles ou des Rolling Stones, mais il y a quand même un mouvement du même ordre qui se déroule en Grande-Bretagne avec des occupations, avec une contestation très importante à l'université, qui commence avant 68 aussi, d'ailleurs, la LSI, donc il y a effectivement une diffusion de ces mouvements au cours de l'année 68 d'un grand nombre d'universités britanniques. Il y a des mobilisations très importantes contre le Vietnam, et puis la Grande-Bretagne, c'est aussi ici, Bertrand Russell. C'est lui qui a lancé depuis très longtemps ce mouvement contre l'arme atomique. C'est celui aussi qui a constitué le tribunal Russell pour juger de l'action militaire des États-Unis au Vietnam. Donc la Grande-Bretagne n'est pas absente, même si, évidemment, il n'y a pas de liaison et d'extension à d'autres secteurs de l'université que l'université, notamment dans la classe ouvrière, en raison notamment du rôle important que le Parti travailliste occupe encore dans cette société. Alors c'est aux marges de ce parti, dans la nouvelle gauche, chez les intellectuels, chez les artistes, vous avez dit chez les musiciens, mais plus largement, qu'existe évidemment une effervescence de 68 qui va être un peu réactivée aussi au contact de ce qui se passe en France, puisque la prise de position de Mick Jagger, c'est bien effectivement celle qui consisterait à dire qu'est-ce qui se passe dans Londres endormie, je voudrais être à Paris sur les barricades.
Jacques Rupnik, en Tchécoslovaquie, c'est évidemment le drame en août 68, les chars soviétiques, un rideau de fer plus hermétique que jamais. Évidemment, le drame, il est indiscutable, mais est-ce que pour autant on peut parler d'échec, ou au contraire, diriez-vous que le printemps de Prague a été la première brèche dans le système communiste?
C'était peut-être pas la première brèche, il y avait eu 56 et Budapest, mais c'était la brèche peut-être la plus profonde, en ce sens que c'était l'aboutissement de tout le dégel khrouchtchevien. Et rétrospectivement, on peut dire que c'était la dernière chance du système pour se réformer. Gorbatchev arrive avec le même programme que le printemps de Prague, mais 20 ans trop tard, plus personne n'écoute, plus personne n'est intéressé, parce qu'on n'est plus dans la réforme du communisme, on est dans l'avènement de la démocratie. Donc on est dans une autre problématique. En ce sens-là, le printemps de Prague est important, parce que ça a été un traumatisme pour le mouvement communiste international. Ça a, pendant 20 ans, gelé toute possibilité de réforme. Mais ce qui est important, le contraste avec 68 à l'Ouest, on peut dire 68 à l'Ouest, pour reprendre la formule de Cohn-Bendit, on a gagné socialement, on a gagné culturellement et fort heureusement, on a perdu politiquement. C'est une génération qui a gagné en quelque sorte. Ils sont partout, dans les médias, dans les universités, dans les... Bon, c'est une génération très satisfaite qui se commémore constamment, tous les 10 ans. Alors qu'à Prague, les 68ards ont été durement pourchassés. Exclus, 500 000 de personnes exclues du Parti communiste, de toutes les institutions, de l'université. Et pendant 20 ans d'hibernation, ils l'ont payé très cher. Et lorsque la liberté est advenue en 90, ils avaient la cinquantaine ou parfois la cinquantaine passée. Et c'est très difficile de reprendre une vie après une coupure de 20 ans. Donc c'est une génération perdue à l'Est, alors que c'est une génération triomphante à l'Ouest.
Même s'il y a eu la figure emblématique de Václav Havel, 68 ans au printemps de Prague, qui devient président de la République. Tchécoslovaque, plus tchèque 21 ans plus tard.
Bien sûr, symboliquement, c'est extraordinaire. Et puis, la dissidence, dont Havel a été le symbole, le porte-parole, a essayé à sa façon de poursuivre un certain nombre de combats de 68, avec la grande différence qu'elle ne se situait plus dans l'optique du socialisme. Elle disait, ce qui nous intéresse, c'est plus de savoir si le régime a un visage humain ou non, si le socialisme peut être amélioré ou non. Ce qu'on demande, c'est qu'ils appliquent la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'ils ont officiellement signée. C'est tout ce qu'on leur demande, application des droits. Donc l'idée de la société civile, l'état de droit, les droits de l'homme, c'est des thèmes qui étaient déjà là pendant le printemps de Prague, mais qui deviennent le fondement de la dissidence et qui seront alors repris, amplifiés, remaniés après la révolution de velours en 89.
Daniel Cohn-Bendit, justement, il est aujourd'hui député vert, il est même le président du groupe des Verts au Parlement européen. Je lui ai demandé si l'Union européenne, démocratique, réunifiée, où les individus circulent librement et où les étudiants peuvent étudier partout grâce au programme Erasmus, je lui ai demandé si cette Europe-là, elle est quelque part le prolongement politique de l'utopie de l'année 68. Daniel Cohn-Bendit.
D'abord, l'Union européenne, c'est une réponse au totalitarisme du début du XXe siècle. Donc ça, c'est quelque chose de commun en Europe. 68 est un des ferments qui a permis justement de penser une Europe comme quelque chose d'ouvert. Vous avez en 68 un mot d'ordre qui s'appelle « les frontières, on s'en fout ». C'est vrai que l'Union européenne est la réalisation de ce mot d'ordre.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Henri Rey, le dictionnaire de mai 68, Jacques Rupnik, 1968, le printemps tchécoslovaque, Isabelle Sommier, la violence révolutionnaire. Merci tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Merci à Daniel Cohn-Bendit pour sa participation. Merci à Liane Clancier, Jean-Marc Meunier, Valentin Valère qui ont tantôt préparé, tantôt réalisé cette émission. En cliquant sur le site RFI.fr, l'onglet radio, émission Carrefour de l'Europe, eh bien, vous pourrez réécouter cette émission et même la balado diffusée, autrement dit en français, on dit la podcaster. On n'arrête pas le progrès sur RFI.fr. Daniel Desesquelles, je vous souhaite une bonne semaine européenne.
Pour réagir à l'émission, carrefour.europe@rfi.fr.